Vous êtes à l'écoute de l'émission Radio Ici Londres.
Eh bien, bonjour à tous.
Ça fait quelques années que je présente cette émission, que je la réalise, que j'essaie de trouver des idées, et souvent je me demande à quoi vous ressemblez. Oui, vous qui écoutez, vous qui êtes là, derrière le haut-parleur, celui d'un ordinateur, celui d'une chaîne IFI, celui d'un poste radio, dans la voiture, ou je ne sais où, je ne sais pas ce que vous faites. Et du coup, en étant un peu fatigué, je suis allé passer 3 jours du côté de Brest. Là-bas, un festival de radio, je me suis dit, il y a sûrement des passionnés de radio, il y a sûrement des gens qui écoutent la radio, et j'ai eu envie de dresser le portrait d'auditrices, voir à quoi ressemblent des auditrices.
Moi, j'aime bien quand les gens sont vrais.
Le soir, avec mon colocataire, on écoute ensemble la radio.
Le lien qui s'instaure. C'est subtil. J'aime le mélange des sons qui sont harmonieux ensemble.
Aujourd'hui, présentement habillée d'un pull gris, j'ai comme d'habitude les cheveux assez loufoquement posés sur la tête. Voilà, c'est difficile à coiffer cette chevelure rousse. Voilà, j'ai des lunettes bleues. et voilà, c'est moi.
C'est excellent.
Et j'écoute souvent en faisant la cuisine. J'écoute la radio avec mon smartphone. On ne voit pas dans le sens si elle est sincère ou pas.
Attentive aux petites choses.
Autre thème, rencontrer des personnes qui réalisent des émissions radio, que ce soit un amateur, que ce soit un professionnel, depuis peu de temps, depuis des années, et voir comment évolue la tonalité des émissions, ou des documentaires, ou des reportages. Bref, parler de radio dans tous les sens, à la fois les auditrices et à la fois ceux qui réalisent des émissions.
Quand je suis à la télé, je suis maquillé, bien éclairé et bien réalisé. Quand je suis à la radio, je suis le nez dans mon papier, pas rasé, mal éclairé et j'ai l'air d'une pomme.
Je ne sais pas ce que c'est la manière de faire la radio classique. La radio est extrêmement diversifiée.
De plus en plus de radios filmées.
Ses formes évoluent.
Où j'ai l'impression d'être un coucou.
Elle regarde le cinéma, elle regarde des séries télé.
Alors qu'on croyait la radio en tant que telle déclinante, cette nouvelle génération en fait la réinvente à sa manière. En tout cas, le son n'a pas disparu.
Dans l'air immobile d'un été parfait.
Allez, on monte dans le bus avec une grosse fatigue, l'envie de faire cette émission et j'espère que ça ira.
Bonjour, est-ce que vous descendez jusqu'au quartz? Le truc, ouais, c'est combien?
Parfois, je sors le smartphone pour capter l'instant.
Transporter dans un autre espace.
Smoke a J and drink a G&T. Do whatever's coming naturally.
Toute la poésie d'une explosion.
Ok. Sure. It's night.
Pas entendable. Ouais.
J'enregistre tout.
Oui, mais je vous en prie. Hein. Donc, dans le plaisir de la vie, quand on sait pour donner du bonheur au bonheur, il faudrait que chaque personne qui se lève le matin apprenne à bien vivre. Et bien vivre, c'est savoir.
C'est un peu perdu là, je crois. Le bus, c'est un moment d'échange et de dialogue, le trajet?
Non, dialogue, c'est une bibliothèque à Brest. J'aime bien lire et je vais devoir descendre maintenant.
Moi aussi.
Oui. Alors à très bientôt.
Déjà 5 minutes d'introduction. Par quoi je vais commencer ? Peut-être par la forme des émissions qui a évolué.
Alors je suis Christophe Deleu, professeur à l'Université de Strasbourg et auteur radio.
Elle avait de l'amour.
Hey Jackie, I'm really sorry about...
I talked to Carl.
Oh.
They want you.
Oh my god, are you serious?
You're needed on set Monday.
Holy
fuck. I'm gonna be at the autograph table. Don't keep...
Le documentaire à la radio est un genre, c'est vrai, beaucoup moins défini qu'au cinéma. Parce qu'au cinéma, en fait, dès qu'il y a eu la création du cinéma, il y a eu le documentaire. Tandis qu'à la radio, il y a eu beaucoup d'autres genres. Et en fait, de ce fait, le documentaire, ce qu'on appelle le documentaire de radio, qui est en gros arrivé après la Seconde Guerre mondiale, il s'est nourri des autres genres qui existaient déjà. Ben, vous avez l'entretien, vous avez la chronique, vous avez l'émission musicale, pouvoir à la fiction, tous ces genres se mélangent en fait pour donner quelque chose qui est sans doute beaucoup plus hybride que ce qu'on appelle un documentaire au cinéma.
Qui enquête sur donc, cette ville de Lymington dont tous les habitants ont disparu du jour au lendemain sans laisser de traces.
The only lights are in the two different rooms with the two different men on opposite ends of a floor. Can you see? Yes.
C'est vrai qu'avant, il y avait quand même une vraie volonté de mettre un personnage de récitant qui allait distribuer la parole pour que justement les auditeurs ne soient pas perdus. Mais dès les années 40, à la fin des années 40, il y a déjà d'autres tentatives en fait, pour faire de la fiction sans ce personnage omniprésent du narrateur.
I hold the girl in her bed as she sleeps. And as I hold her, calm grows over me. I understand.
Ben, je pense qu'en France, l'origine de la fiction est vraiment soit théâtrale, soit littéraire. Ça, c'est très net. Et comme c'était que la radio publique qui faisait des fictions en fait, pendant très longtemps parce que ça coûte cher, eh bien, on a une vraie tradition fictionnelle liée à ces deux autres arts. Ce qui change aujourd'hui, notamment avec l'influence américaine, c'est y a une autre influence qui arrive, c'est l'influence du cinéma. Et qui a irrigué en fait les podcasts de fiction américains, mais en fait paradoxalement qui n'a pas du tout encore irrigué la fiction française traditionnelle qu'on peut entendre par exemple sur France Culture ou sur France Inter.
Vendredi, il n'était toujours pas guéri.
C'est encore vraiment l'ancrage théâtral, le lien au texte d'origine qui est le plus fort et qui est vraiment moteur dans ces fictions.
Comment cela se traduit dans le son ?
En général, pour les podcasts américains modernes, vous allez avoir des tournages qui ressemblent à des tournages de fiction, de série ou de cinéma, c'est-à-dire des comédiens qui ont appris leur texte par cœur, qui tournent soit dans des lieux réels, soit dans des studios qui ont été conçus, mais où c'est vraiment, en fait, si c'est un décor de chambre, même, bah, vous avez l'impression d'être dans une chambre. Tandis qu'à la radio française actuellement encore, on tourne beaucoup en studio, assez peu en extérieur. Et les comédiens font surtout ce qu'on appelle des lectures. Jouent quelque chose qu'ils sont en train de lire, en fait, devant un micro, dans un studio. Et ça, c'est vraiment la façon traditionnelle de faire de la fiction. Mais qui ne correspond pas du tout au mode de production cinématographique.
La voix, je pense que ça ment un peu moins.
Quand on écoutait... Les maîtres du mystère, c'était déjà ça.
Mais c'était plus de théâtre dans la mise en onde.
Oui, c'était plus théâtre.
Les programmes changent.
Oui. Mmh.
Toi aussi, c'est que c'est une des premières séries, je crois, avec des acteurs de cinéma.
On avait les bruiteurs, on avait des moyens plus naturels, on avait les comédiens.
Notre époque est différente d'il y a 20 ans.
On avait des grands studios d'enregistrement. On travaillait plus les trucs, mais bon, c'était pas très différent.
L'envie de faire un serial, mais en fiction.
C'est pas un écosystème fermé. Elle regarde le cinéma, elle regarde les séries télé.
J'ai lu aussi que la série avait été adapté en 10 épisodes pour Facebook Watch.
Les séries télé regardent la radio, vous savez, la série Homecoming qui s'est construite à partir d'un podcast Homecoming. Ce genre de brassage existe et crée la richesse de tous les médias, mais de la radio en particulier. L'écoute, c'est jamais aussi bien porté au sens large.
J'écoute pas beaucoup de radio en direct.
Si on regarde sur 20 ans, c'est qu'il y a un tassement petit à petit de l'écoute de la radio.
Moi j'écoute la radio plus en podcast parce que j'ai pas de. Enfin, ou en replay, parce que j'ai pas de poste chez moi.
Les 65 ans et plus, sur ces 20 dernières années, écoutent de plus en plus la radio. J'ai moins de 25 ans, les plus jeunes, là la radio s'effondre littéralement.
En fait, le podcast de fiction américain peut s'appuyer sur le succès des séries télé, qui lui donc a déjà fonctionné, on sait que ça marche.
C'est vrai qu'il n'y a absolument aucun narrateur qui va introduire, et c'est des plans séquences aussi qui va introduire un peu à la situation.
C'est les modes de production qui développent ça. On a l'impression en fait qu'on est en train d'assister à des images alors qu'on n'a que le son. Oui, bah, c'est le mode de production qui s'est beaucoup développé aux États-Unis. Il y a des moyens parce que traditionnellement, la fiction coûte plus cher. La Cour des comptes a estimé pour Radio France la production d'une fiction à 20 000 euros. Donc ce qui est énorme par rapport au reste des programmes. Et aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que maintenant, vous avez des gens qui investissent. C'est que pour l'instant, les fictions dont on parle sont financées par la publicité, par les appels aux dons, par les mécènes, et c'est pas véritablement de l'argent public.
J'ai entendu un mot qui m'a surpris dans l'une des intervenantes qui parlait pour une fiction où il n'y avait qu'une œuvre et pas une série. Elle a dit « Ah, mais ça ne correspond pas à mes habitudes de consommation ». Je n'avais jamais entendu ce mot-là. Est-ce que c'est aussi le public qui a changé sa manière d'écouter ?
Il y a un vrai changement hein, dans le public. C'est vrai que avant, on connaissait le public de Radio France essentiellement, qui écoutait des documentaires, qui écoutait des fictions. Voilà, donc il y avait les codes. On a vu arriver toute une série de nouveaux auditeurs qui ne correspondent pas, ni en âge, ni en pratique culturelle, aux auditeurs traditionnels de la radio publique. Il y a un changement de génération, il y a un changement de code, et a fortiori de vocabulaire, notamment des anglicismes, moi-même.
Et d'un mot, vous m'avez donné un cadeau tout à l'heure, ça s'appelle un...
Un tote bag.
Non, alors...
Je vous ai présenté ça comme un sac.
La règle, c'est que nous allons essayer de vous parler dans un français intelligible. Pas celui qu'utilisent les nouveaux maîtres des médias qui, entre eux, parlent d'un langage que... Le vulgum pecus ne comprend pas nécessairement.
On parle de podcast et on parle pas de balado-diffusion. Enfin, voilà, quel terme d'origine. On parle de spoil, on parle de cliffhanger, on parle de climax, de pitch, voilà. Donc vous avez un changement de génération, et cette génération-là n'est pas qu'une génération d'auditeurs, c'est aussi une génération qui se met à produire, et produire vraiment différemment de la génération précédente. Donc c'est une vraie révolution. Au début des années 2000 aux États-Unis, nous ça a mis un peu plus de temps, je sais pas pourquoi. Mais c'est ça qui est en train, je pense, de se passer.
La radio a-t-elle un avenir ?
Cette nouvelle génération, en fait, la réinvente à sa manière. En tout cas, le son n'a pas disparu.
Ce qui se passe avec le son est extraordinaire. Les gens ont des écouteurs tout le temps sur les oreilles, les podcasts, etc. Et donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on fait correspondre cette espèce d'explosion de ce qui se passe avec le son, qui, lui, n'est pas en crise, et la question de la correspondance de ça avec des modèles industriels de production de ce qu'on appelle la radio.
La problématique qui se pose, c'est comment ce qu'on produit et dont on est fier, on réussit à l'amener vers le public au travers de nouveaux modes de diffusion.
Durant ce festival de la radio, je multiplie les claques. Fatigue, la qualité des productions écoutées est remarquable et le sentiment d'être un homme du passé m'envahit. Et puis tant pis. Je souhaite partager avec vous des instants de bonheur, tendre le micro et vous transmettre ces dons de la parole collectés auprès d'auditrices. Si ces questionnements sur le chamboulement du numérique me dépassent, avant de retrouver les auditrices dans une mise en onde plus dépouillée, je tends une dernière fois le micro pour une dernière interview. Comme moi, le magnétophone n'a plus d'énergie, je sors donc en urgence le smartphone pour une captation brève, mais un peu dégradé.
Tu t'appelles comment ?
Jean Lebrun, bonjour.
Quand je vous écoute, quand j'écoutais Daniel Mermet, quand j'écoutais Alain Weinstein, j'ai l'impression aujourd'hui d'être un homme du passé. Est-ce que vous l'entendez, vous aussi, ou pas ?
Ben vous savez, le vieux redevient neuf, tôt ou tard. Il y a une maison du XVIe siècle à Blois, dissimulé dans une rue montante, là, vers l'évêché. Et il y a cette formule sur la porte, « Un jour, le vieux redevient neuf ». Moi, je crois beaucoup au débordement des temps. C'est-à-dire que les temps anciens ne s'abolissent pas. Et ils reviennent par surgissement, par recouvrement, par débordement. Il me semble que sur les ondes naguère, beaucoup de gens s'écoutaient parler. c'est pas une question de période, c'est une question de tempérament de la part des journalistes, de la part des producteurs, de la part des animateurs. Il y a ceux qui sont dans le partage et il y a ceux qui sont dans le message. Et qui dit message dit nécessairement d'utiliser le « je » plus que le « nous » ou que le « tu ». Ce sont deux voix différentes qui chacune d'ailleurs ont leur légitimité dans la radio. La grande transformation, elle est surtout dans le changement de comportement des jeunes auditeurs qui, en effet, écoutent indifféremment parce que leur source, c'est leur téléphone portable, leur ordinateur, leur tablette, écoutent indifféremment ce qui vient de la radio classique avec ses marques, ou tout aussi bien des productions locales de leurs camarades, des youtubeurs. Je ne pense pas qu'on puisse faire une ligne de partage entre l'ancien et le nouveau, mais on assiste à une balkanisation, une très 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 grande fragmentation, et ça c'est très difficile à analyser. Ce qui risque de s'effondrer, c'est la mémoire collective qu'on pouvait avoir, parce qu'on écoutait, on regardait tous ensemble des personnalités, des journalistes, des speakers, et ces moments de fédération sont beaucoup plus rares. C'est ça que vous regrettez, en fait. Plus que la qualité de ceux qui parlaient, c'est l'effet de rassemblement qu'ils provoquaient, et qui n'est plus possible aujourd'hui.
Quand j'écoute la radio, il faut absolument que le présentateur ou la présentatrice de l'émission m'accroche par une voix qui invite.
Laurent Frisch, je suis directeur de numérique et de la production à Radio France. Ceux que vous avez cités n'étaient pas là il y a un siècle pour faire la radio. Ils sont venus un moment, ils sont partis, d'autres sont arrivés, la radio continue.
On est soumis à la dictature de l'instant et que nous devons produire des produits de radio filmés, courts, des petites capsules qu'on dissémine ensuite à la rencontre d'un public hypothétique dans le monde numérique. Mais ça écrase les spécificités de la radio, ce modèle.
L'auditrice qui est en face de moi, elle ressemble à quoi ? Est-ce que vous pouvez vous décrire un peu ?
À une personne pétillante, curieuse, ouverte à tout. Michel, avec deux L.
Est-ce que vous pouvez me faire le portrait d'une auditrice, en l'occurrence vous ?
Je ne sais pas si c'est vraiment l'apparence visuelle qui est importante pour définir un auditeur. C'est une question d'écoute, d'être attentif aux petites choses.
Merci Marie, auditrice. Est-ce que vous avez des instants radiophoniques dont vous vous souvenez ?
Geneviève Taboui, c'est l'intonation de sa voix. Si la richesse du documentaire est gâchée par une voix, je vais très vite l'arrêter. Je devais avoir 7-8 ans, auprès de mes parents.
Je suis Flora Robin, j'ai 21 ans et je porte une vareuse. Vive la Bretagne.
Votre amour de la radio, il est né quand ?
C'est un amour très récent, mais je pense qu'il va durer dans le temps. Bah plutôt que d'écouter du fond, j'ai envie d'écouter un truc qui me stimule un peu l'imagination.
Et pour moi, c'est un lieu d'évasion sans nul autre pareil et qui laisse une grande liberté à la fois à l'esprit qui est captivé par quelque chose mais qui peut imaginer une grande partie de ce qu'il entend. Et aussi pour les mains, moi j'aime beaucoup faire autre chose en même temps, dessiner la cuisine, danser, enfin peu importe. Mais c'est des moments, moi, quand j'écoute la radio, qui sont privilégiés et voilà, et qui sont une ouverture sur l'inconnu. Et du coup, je suis quand même très attachée au poste de radio et à cette part de hasard. Voilà. Il y a une superposition dans l'air, en fait, de différents programmes qui sont là et qui sont invisibles en même temps. Et ça me fascine. On a l'impression d'accéder à un autre niveau, à une autre conception du monde. Et ça, je trouve que c'est un sentiment qui n'a pas de prix.
Je pense qu'un bon auditeur, c'est avant tout un bon auditeur au quotidien. Dans les transports publics, il y a des choses qui se passent. Si on écoute, ça nous fait sourire ou pas. Enfin, il y a des surprises. Enfin, le nombre de fois, on se retrouve à des repas et les gens s'écoutent pas, se parlent dessus.
C'est un peu pareil des fois pour les auditeurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas très attentif finalement. Il a son repère horaire, sa voix horaire, je sais pas.
Ah ouais, clairement. Très possible. Que la radio, c'est le fond sonore, la radio comme elle est diffusée sur les ondes, elle est faite pour l'auditeur ou l'auditrice qui part dans sa voiture pour aller au boulot. qui va écouter pendant 15-20 minutes la radio et qui va pas forcément être happé. Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est toujours cette possibilité d'être happé.
Les sons déclenchent chez moi des images. Et s'il n'y a pas de commentaires, mais uniquement des sons, je trouve que c'est encore mieux parce que ça donne la liberté d'interprétation.
Moi, j'ai des souvenirs de retransmissions de concerts à la radio, écoutés en famille dans une voiture ou bien seule à un moment donné où j'avais bien travaillé la journée et j'ai été fatiguée. Et j'ai découvert comme ça, par exemple, complètement par hasard, une émission qui s'appelle Le Cri du Patchwork. J'ai trouvé ça très intelligent et nouveau, en fait. Et donc Clément Lebrun, va s'intéresser au bruit du grincement de porte. Il va rechercher ce grincement de porte dans plein de musiques du Moyen-Âge à aujourd'hui. Cette curiosité-là est incroyable. Et voilà, c'est des portes qui grincent, des portes qui s'ouvrent. Enfin, c'est magnifique, quoi. J'attends d'une perle. J'attends pas ça du quotidien non-stop, mais j'attends d'une perle qu'en fait, elle me surprenne... qu'elle me divertisse par sa finesse.
Je pense que les sons de la musique ne sont pas innocents. Ils répercutent certainement l'idée de celui qui crée. Et puis après, il y a transmission ou pas. Je n'aime pas les sons aigus. J'aime le mélange des sons qui sont harmonieux ensemble. Donc Boulez, pas du tout. Le style Boulez, non. Il faut que je sois en harmonie avec moi et le son. Donc avec celui qui crée. Je ne peux pas écouter si je fais autre chose. Je suis totalement absorbée par l'oreille. Donc, je suis entièrement dédiée. Oh.
C'est pire que la télé.
Je ne suis pas télévision, du tout.
Je m'en doutais un peu. Qu'est-ce qui vous met dans cet état presque hypnotique par rapport au son ?
Je pense que c'est naturel. Je ne me suis jamais posé la question. Je me laisse glisser. Ça marche ou ça ne marche pas ?
Ça a toujours été le cas ou c'est venu de
plus... Non, ça a toujours été le cas.
À quel moment vous l'avez repéré ?
Je ne me suis jamais posé la question, tout simplement.
Elle n'est pas intéressante, cette question.
Voilà. Je ne voulais pas vous le dire, mais...
C'est excellent.
Je suis aussi une auditrice du son en général, quand je me balade dans la forêt, quand je me balade en ville. J'essaie d'écouter ce que me dit mon oreille gauche et ce que me dit mon oreille droite. Elles me disent la poésie de... du paysage sonore.
J'aimais déjà bien faire du montage vidéo et de la photo. Et le fait d'avoir commencé la radio, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément le même public au micro que celui qu'on a devant une caméra. Un micro, c'est peut-être un peu plus simple, un peu plus intimiste. Par exemple, moi je parle, je suis pas trop du genre à parler pour ce genre de choses d'habitude.
Après, lorsque vous faites le montage, c'est aussi une autre découverte. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la voix que vous n'avez pas rencontré dans l'image ?
La voix, c'est... Ouais, je pense que ça ment un peu moins.
Du témoignage, de l'intime, c'est-à-dire ce que permet la radio, en fait, c'est de pouvoir se livrer. C'est comme mettre une oreille à côté de cette personne qui se livre, sauf que c'est pas à nous qu'elle a livré le message, mais à quelqu'un comme vous, avec un micro. Et pourtant, on a l'impression que c'est à nous qu'elle parle.
Je pense que la voix ne trahit pas. Quand une voix parle, on sent si elle est sincère ou pas.
Bon, quel est le prénom de l'auditrice qui est face à moi ?
Macha.
Merci Macha, auditrice.
Moi, j'aime bien quand les gens sont vrais. Ça paraît être hyper bateau de dire ça comme ça, mais...
Et comment vous l'entendez, qu'une personne est vraie ?
Je sais pas. Je sais pas vraiment. C'est, enfin, qu'il y a un truc qui s'est passé entre la personne qui a interviewé et la personne qui a interviewé. Je sais que ce que j'aime pas, trop quand ça va trop dans l'intime, quand j'ai l'impression que la personne a été piégée par la radio et qu'elle s'est trop donnée. Et je trouve qu'il peut y avoir quand même un danger avec la parole, quand bien même on s'en rend moins compte qu'avec l'image.
Dévoiler l'intime au bout d'un moment, ça me lasse. C'est rare aujourd'hui d'entendre ça.
Mais peut-être parce qu'il y a une sorte de surplus. Il y a eu autant qu'un boom et que tout le monde a pris son petit enregistreur parce que c'est hyper facile et c'est ça qui est magique. Et a commencé à raconter des trucs. Et je me suis intéressée aux autres formes de documentaires, de reportages qui peuvent être faits. Et souvent, ça tombait sur des choses qui touchaient vraiment l'intime, mais l'intime, plutôt les questions de sexualité, et des choses comme ça, qui sont très bien parce que ça libère la parole. Mais au bout d'un moment, moi je fais de la science sociale, donc peut-être que j'ai un peu trop envie d'avoir une sorte de vérité scientifique et d'arrêter avec cette subjectivité. Des fois c'est intéressant, des fois c'est très juste, et des fois c'est... c'est perturbant et je me demande quel impact ça peut avoir pour la personne par après, parce que ça peut la mettre très mal à l'aise ou ça peut pas mal chambouler les choses. Peut-être dans le bien, j'espérais, mais aussi peut-être dans le mauvais. Du coup, ça m'interroge un peu.
Donc, je peux l'écouter toute seule, mais je peux aussi la partager avec les personnes qui vont rentrer dans la même envie et dans les mêmes dispositions d'écoute. C'est une personne qui se lie à quelqu'un ou à d'autres personnes, mais par le même lien.
Qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez la radio ?
La plupart du temps, je dessine.
Voilà. Donc, la prochaine fois que j'écoute la radio, je me dis peut-être que cette personne est en train d'écouter la radio et dessine. C'est forcément ça ou il y a d'autres moments ?
Non, j'aime bien aussi ne rien faire, tout simplement. ne rien faire en écoutant la radio, c'est parfait aussi. On est pris en charge de bout en bout.
J'écoute souvent en faisant la cuisine. J'écoute sur
une enceinte connectée.
Voilà, une enceinte connectée. Et je mets très fort et puis je fais la cuisine ou le ménage. C'est souvent dans ces moments-là que j'écoute.
C'est caricatural.
C'est ça qui est magique avec la radio, c'est qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Il ne faut pas faire des choses trop sonores non plus. On peut avoir une écoute attentive. C'est assez facile d'écouter la radio à côté, quoi.
Ça m'embête un peu, mais j'écoute la radio avec mon smartphone. Parce que je suis quand même assez mobile et puis c'est une bonne solution. J'écoute pas beaucoup de radio en direct.
Est-ce que vous écoutez seul ou parfois vous vous isolez pour écouter ?
Je crois que le soir, avec mes colocataires, on écoute ensemble la radio, mais c'est plus la radio musicale quand on va faire des trucs ensemble. Ou des fois, ça nous arrive d'écouter des chroniques. Là, ça devient un peu cérémonial. On se réunit, on écoute ça, on fait « Ah, t'as entendu ?» J'écoute beaucoup de podcasts, pas forcément du natif, mais d'émissions qui sont rediffusées parce que je sais pas quand est-ce qu'elles sont diffusées, c'est juste que je suis abonnée à certains trucs. Finalement, je suis assez mono-émission, je vais pas découvrir beaucoup de choses.
C'est vraiment le montage qui m'intéresse, j'aime bien l'idée de construire une histoire par rapport à un matériel brut et du coup, je pense que c'est ce que j'écoute le plus parce que j'en fais aussi.
Bah, si je me balade près d'un pré et que je vois des chevaux, je vais essayer d'entendre leur souffle. Si je suis près de la mer, je vais essayer de faire entendre le ressac.
Bon, quand vous dites ça à des connaissances qui ne vous connaissent pas tout à fait ou qui vous découvrent, quelles sont les réactions ?
Ce n'est pas des réactions de « elle est folle », c'est plutôt des réactions de « ah, elle écoute des choses que nous, on n'entend pas ou auxquelles on ne prête pas attention ».
Il y a un pont qui s'appelle le pont de recouvrance à Brest, qui est un pont qui chante. Quand il y a du vent, ce pont se met à chanter. Il y a des sons de flûte et en fait, ce qui est drôle, c'est que ce n'était pas prévu du tout. Essayer d'enregistrer le pont de recouvrance qui chante, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de vent, les micros sont sensibles, voilà. Il y a des petites gageures comme ça.
Je pense que c'est un reflet de la société aussi. Avant, il y avait peut-être beaucoup plus de dictats au niveau de la création. Maintenant, il y a une liberté qui s'instaure et revendiquée des deux parts. Et du créateur et de celui qui écoute.
J'adore le silence. Voilà, moi je suis très sensible à la musique. Le silence est une grande partie et une part importante de tout fait musical. Alors du coup, c'est un art en soi, le silence.
Je l'ai souvent entendu, comment vous l'expliquez ?
Alors je pense que c'est comme quand on regarde l'horizon, on a besoin d'une séparation pour se rendre compte qu'il est là. Il faut avoir du courage pour laisser passer du silence à la radio. C'est comme en musique, il peut y avoir des grandes pauses.
C'est toujours comme ça, un peu brutal les fins d'émission. Merci aux auditrices, merci aux auditeurs. À bientôt.